Les orages maléfiques, chapitre 12. Il s'ennuyait beaucoup à la maison. Le bricolage n'était pas sa passion, et les voisins et amis travaillaient, eux. Une éclaircie apparut dans son ciel obscur. Le juge, dans sa grande mansuétude, venait d'accepter d'examiner sa troisième demande de clémence concernant sa suspension de permis de conduire. La justice lui restituait le précieux rectangle rose, mais la mesure s'accompagnait d'une période probatoire de 3 ans avec une analyse de sang par semestre. L'obligation ne le gênait pas. Il ne buvait plus depuis que son épouse l'avait sauvé in extremis. Il déprimait seul dans son coin et n'utilisait aucun produit pour tenter d'oublier ses tourments du moment. Il discuta avec sa tendre moitié de l'achat d'un second véhicule. Ils tombèrent d'accord sur un petit modèle qui ferait l'affaire. Une quinzaine plus tard, ils sillonnaient la campagne dans une Twingo dernier cri. Il profita des beaux jours pour se consacrer à la photo. Il cherchait les emplacements insolites pour réaliser des clichés qu'il retoucherait ensuite sur son ordinateur. Tout y passa. Les églises, les vieilles bâtisses, le cheptel, les oiseaux et les gens. Il se débrouillait bien, et l'avènement du numérique lui permit de réaliser d'innombrables prises de vue et de sélectionner celles qui méritaient de rejoindre un album. L'hiver, particulièrement rigoureux cette année-là, signa le retour à un état dépressif. Il luttait du mieux qu'il pouvait contre ce mal pernicieux qui s'installait sans crier gare. Il y avait des moments avec et d'autres sans. Ainsi allait sa vie. Voyant son cher époux plongé dans la torpeur, elle lui proposa d'effectuer un voyage à Venise au printemps. Ils aimaient beaucoup la cité des Doges. Ils se chargeraient des préparatifs de leur séjour. Ainsi, ils seraient occupés, durant quelque temps, à chercher les bons plans et à se renseigner sur les expositions et manifestations organisées en Vénétie. Le mois d'avril fut choisi. Ils décidèrent d'y passer une semaine en amoureux. Ils se rendirent à destination par le train. Les longues distances en voiture ne le séduisaient plus. Il avait réservé un hôtel à proximité du Grand Canal, ce qui autorisait plus de souplesse horaire par rapport au complexe hôtelier situé au Lido ou à la Punta de Sabbione. Ici, pas besoin de prendre le Vaporetto pour se déplacer. De bonnes jambes suffiraient. Dans sa préparation, il envisagea diverses hypothèses en fonction de la météo. Il vit juste, car dès l'arrivée en gare, ils comprirent que leurs vacances ne seraient pas ordinaires. L'Acqua Alta s'invitait. Le long des rues, des tréteaux et des plateaux étaient disposés pour pallier à la montée des eaux. Avec l'expérience, la commune savait anticiper le phénomène. Un plan de la localité, avec les différentes hauteurs possibles, était mis à la disposition des touristes pour les aider à se retrouver dans la cité. Les passerelles, disposées aux endroits les plus inondés, permettaient de se mouvoir les pieds au sec. Ils rejoignirent leur hôtel en marchant une dizaine de minutes. L'eau affleurait les trottoirs le long des canaux. L'entrée ne payait pas de mine. La chambre, située au deuxième étage, donnait sur un croisement où il pouvait distinguer les gondoliers à la manœuvre. La décoration rappelait les fastes du carnaval et le lit était confortable. Ils posèrent leurs bagages et partirent se balader en direction de la place Saint-Marc. Les pigeons tournaient autour des touristes. Ils poussèrent jusqu'au bout. L'eau commençait à déborder des canaux. Les employés municipaux installaient le matériel surélevé qui permettrait aux Vénitiens de mener une activité quasi normale pendant la période des hautes marées. Quelles que soient les circonstances, Venise exerçait son pouvoir d'attraction. Elle possédait un charme particulier. C'était leur troisième visite. Le plaisir se renouvelait une fois encore. Ce bijou dans son écrin lacustre, ensorcelait ses visiteurs. Ils déambulèrent jusqu'à la nuit, les lumières se reflétant dans les premières flaques donnaient un aspect irréel à la place. Il faisait frais et il semblait seul au monde. Jour après jour, le niveau monta. En certains endroits, l'eau arrivait à la hauteur des plateaux. Les habitants confirmaient qu'il s'agissait d'une très importante aqua alta. Ils étaient très pessimistes à cause de l'enfoncement progressif de la cité. À les entendre, la lagune n'était qu'un gruyère parsemé de milliers de trous. La vérité était très proche de ces assertions. La conjugaison de plusieurs phénomènes, alliés à la stupidité des hommes, amenait à cette situation catastrophique. Ils avaient conscience qu'ils voyaient un site dont les générations futures ne pourraient jouir sous sa forme actuelle. Ils purent visiter les musées prévus, aucune restriction n'interdisant leur accès. Ils apprirent que les collections privées d'art contemporain du milliardaire français François Pinault viendraient au Palazzo Grassi. Ce dernier venait d'acquérir ce palais qui devait être restauré par un architecte japonais. Après une fâcherie avec les autorités françaises, il avait pris la décision d'installer ses œuvres au bord du Grand Canal. Ils quittèrent la vieille cité sous la pluie. Venise s'enfonçait. L'aqua alta jouait au chat et à la souris avec les Vénitiens. L'eau pénétrait les vieux palais. Derrière les portes closes se déroulait un drame. Les murs se fissuraient et personne ne le voyait, à l'exception des spécialistes. De l'autre côté des façades, des étais soutenaient les vieilles demeures. Il fallait des milliards pour sauver ce patrimoine en péril. Pour l'instant, chacun avançait ses pions pour récupérer la plus grosse part du gâteau. En attendant, le temps qui s'égrenait affaiblissait davantage les bâtiments gangrenés. L'issue semblait inéluctable. Cette semaine vécue en amoureux leur redonna le moral pour affronter à nouveau les banalités du quotidien. Ils n'avaient pensé qu'à eux, faisant abstraction des soucis et problèmes. Ils étaient heureux et fêtèrent leurs 30 années de vie conjugale dans le train. Ils passèrent une longue soirée dans le wagon-bar et lorsqu'ils rejoignirent leur couchette, ils étaient passablement éméchés et riaient de leur état. Il lui restait 5 mois d'abstinence avant de subir le prochain contrôle sanguin. Il lui en fit la promesse.